Radio Vatican, France et Afrique.
Amis et fidèles auditeurs, bienvenue et merci d'être à notre écoute. Le pape François hospitalisé pour poursuivre son traitement contre la bronchite. Le Saint-Père qui, avant d'être admis à la polyclinique Gemelli dans la matinée de vendredi, a accordé plusieurs audiences, notamment au Premier ministre slovaque Robert Fico et à la fondation philanthropique Gaudium et Spes. Nous en parlerons dans l'actualité de l'Église avant de nous rendre en Côte d'Ivoire et au Bénin pour parler des initiatives qui ont marqué la 33e journée mondiale du malade. L'Union africaine tient son 38e sommet ce week-end. Les chefs d'État doivent élire un nouveau président de la Commission africaine. Au menu de la rencontre également, les conflits en cours en République démocratique du Congo, où les groupes armés M23, soutenus par le Rwanda, continuent ces exactions. Vendredi, ils ont pris l'aéroport de Kavumu, proche de Bukavu, capitale de la province du Sud Kivu. L'actualité sociale et politique africaine nous conduira également au Soudan, au Burkina Faso, au Togo, où se tiendront samedi les premières élections sénatoriales. Nous conclurons cette édition par un tour d'horizon de l'actualité internationale de la semaine. Encore une fois, bonne condition d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la Cité du Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Stanislas Kambashi.
Le pape François hospitalisé à la polyclinique Agostino Gemelli de Rome, selon un communiqué de la salle des presses du Saint-Siège. Après ses audiences des vendredis dans la matinée, le pape François a été admis à la polyclinique Agostino Gemelli pour y subir des tests de diagnostic nécessaires et poursuivre en milieu hospitalier son traitement contre la bronchite, un traitement qu'il suit depuis quelques jours. Au nombre de ses audiences de vendredi, le Saint-Père a reçu le Premier ministre slovaque Robert Fico, qui a aussi eu une rencontre avec le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, qui était accompagné de Mgr Miroslav Wachowski, sous-secrétaire pour les rapports avec les États. L'appréciation mutuelle des relations bilatérales est solide et l'engagement commun renouvelé en faveur de la cohésion sociale était au menu des entretiens cordiaux à la secrétaire d'État. Dans ces contextes, une attention particulière a été accordée à la question de l'anthropologie et aux questions relatives à la famille et à l'éducation. Toujours vendredi, le pape François a reçu les membres de la fondation Gaudium et Spes, une organisation philanthropique qui réalise des projets d'assistance sociale destinés aux pauvres et aux personnes vulnérables à Porto Rico et dans d'autres pays. Dans les mots qu'il leur a adressés, le Saint-Père les a remerciés pour leurs actions en faveur des plus pauvres, pour la dignité de tous, sans distinction. Les détails avec Françoise Niamien.
Je tiens à vous remercier pour la tâche que vous accomplissez, en particulier en faveur des plus pauvres, en suivant les enseignements de la Constitution conciliaire dont vous avez tiré votre nom et que vous honorez par vos actions, a déclaré le pape. Pour François, les œuvres de la Fondation Gaudium et Spes rendent ce document actuel, ce qui coïncide avec l'esprit synodal de l'Église qui fait de nous des frères dans le Christ, formant une fraternité universelle en tant que membres de son corps, une famille, des frères avec la même dignité qui se réunissent pour manger ensemble le dimanche à la messe. L'Eucharistie, cette nourriture spirituelle qui est servie à tous de manière égale et qui nous fait vivre en communion avec Dieu et nos frères et sœurs. Ainsi, a poursuivi François, cette force de l'Esprit-Saint nous conduit à être des instruments de l'amour de Dieu et qui veut atteindre tous les hommes sans distinction. En cette année sainte, je souhaite vous remercier parce que vous êtes une source d'espérance pour tant de personnes qui souffrent et sont découragées, des personnes qui, à travers vos œuvres, sentent que Dieu les caresse et les console dans leur souffrance, a conclu le Saint-Père.
Merci Françoise. Toujours vendredi, le pape François a adressé un télégramme de condoléances pour les victimes d'un accident de camion au Guatemala. Le télégramme est signé par le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin et adressé à Mgr Gonzalo de Villa y Vázquez, archevêque de Santiago de Guatemala. le Saint-Père s'est dit profondément attristé par la douloureuse nouvelle de la chute d'un autobus dans un précipice de la ville de Guatemala qui a fait de nombreuses victimes et blessés. Le pape offre ses prières pour le repos éternel des défunts. Il présente ses condoléances aux familles éplorées, leur manifeste sa consolation et sa vive sollicitude et formule ses vœux de prompt rétablissement aux blessés. L'actualité de l'Église en Afrique nous conduit en Côte d'Ivoire. Les personnes souffrant des troubles mentaux, errant dans les rues et les artères des villes et villages de ce pays, ont été au cœur de la 33e journée mondiale de malades, célébrée mardi 11 février. Lors de la messe célébrée au centre Saint-Camille pour les malades mentaux de Bondoukou, Mgr Bruno Esso Yedo, ordinaire du lieu et président de la commission épiscopale pour la pastorale sociale et du service du développement humain intégral, a réaffirmé l'appel des évêques ivoiriens en faveur d'une prise en charge holistique de ces personnes souffrant des troubles mentaux et pour la cessation des stigmatisations dont elles sont victimes. Marcel Ariston-Blé nous en dit plus.
À l'occasion de la 33e journée mondiale des malades, les fidèles réunis dans les différentes messes célébrées à travers les diocèses ont été davantage sensibilisés à ce projet des évêques ivoiriens appelés à venir en aide aux malades mentaux. Au centre Saint-Camille des malades mentaux de Bondoukou, Mgr Bruno Esso Yedo, évêque de Bondoukou et président de la commission épiscopale pour la pastorale sociale dans son homélie, a insisté sur la nécessité de témoigner d'une attention particulière envers les malades, suivant ainsi la recommandation du Christ. Il a également exhorté les fidèles à changer leur regard sur ces personnes, soulignant que ces malades font partie du corps du Christ. La veille, le lundi 10 février, au siège de la conférence épiscopale ivoirienne à Abidjan-Cocody, les évêques, par l'intermédiaire de leur commission épiscopale pour la pastorale sociale et du service du développement humain intégral, ont relancé la campagne intitulée « Zéro personne souffrant de maladies mentales dans les rues ». Lors d'une conférence de presse animée par les pères secrétaires exécutifs nationaux de la commission, le conférencier principal, le père médecin Arnaud Amelechi, responsable de la pastorale de la santé, a expliqué aux journalistes les objectifs de cette initiative. Selon lui, cette campagne vise à restaurer la dignité des frères et sœurs affectés par la maladie mentale et errants dans les rues. À travers cette action, les évêques invitent ainsi les fidèles et toutes les personnes de bonne volonté à être plus sensibles et compatissantes envers leurs souffrances. Marcel Ariston-Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
Journée mondiale du malade au Bénin également. Dans l'archidiocèse de Cotonou a eu lieu la 12e édition du pèlerinage diocésain dédié aux malades. C'était au sanctuaire marial de Véki. 4 jours de pèlerinage en zone lacustre, meublés par divers exercices spirituels, dont le chemin de croix, le chapelet, l'adoration eucharistique, l'écoute, la confession et des enseignements. Mais les points culminants de ce cheminement étaient la messe présidée par l'archevêque Mgr Roger Umbeji. Les détails avec notre correspondant Juste Halanon.
C'est une famille diocésaine en liesse qui a accueilli Mgr Roger Umbeji, archevêque de Cotonou, pour la messe de clôture de cette 12e édition du pèlerinage diocésain des malades. S'adressant aux pèlerins, Mgr Umbeji les a orientés vers la parole de Dieu, repère sûr dans les temps d'épreuve.
Cette parole qui nous construit, qui nous renouvelle, cette parole qui nous donne la force de vaincre toutes les tentations, de vaincre aussi toutes les douleurs, les souffrances qui s'abattent sur nous, surtout en ce moment où nous sommes réunis autour des malades. C'est dans la parole de Dieu que nous retrouvons cette force qui nous porte toujours au loin.
À partir des tests liturgiques du jour, le prélat les invitera également à l'humilité avec pour modèle le prophète Isaïe. Pour le père Ulrich Sodiegbe, membre du comité d'organisation de ce pèlerinage, l'enjeu pastoral est grand.
Pour le peuple de Dieu, vivre ce temps de pèlerinage est un moment d'espérance parce que certains se sont exprimés en pleurant même. Donc on sent qu'ils ont besoin d'un pasteur pour les écouter. Ils ont besoin aussi d'un temps pour les écouter se vider. Alors, on essaie de les accompagner et de leur donner l'espérance.
Juste Lannon, Cotonou, pour Radio Vatican.
Actualité sociale et politique en Afrique. L'est de la RDC est dans une situation de plus en plus difficile. L'aéroport de Bukavu, capitale de la province du Sud-Kivu, est tombé vendredi aux mains du groupe armé M23, allié à des troupes rwandaises, selon des sources sécuritaires et humanitaires. Le site stratégique où étaient positionnées les forces armées congolaises était le dernier verrou militaire avant Bukavu, chef-lieu provincial d'un million d'habitants situé à une trentaine de kilomètres. Le Burkina Faso a adopté cette semaine les statuts de la chefferie coutumière. Selon la nouvelle loi, les chefs coutumiers ne seront pas rémunérés et ils sont interdits de mener des activités politiques à moins qu'ils ne démissionnent. Une première dans le pays et l'une des plus vieilles institutions du Burkina, la chefferie traditionnelle. L'afflux d'armes au Soudan doit cesser, a exhorté vendredi le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, décrivant une crise humanitaire sans précédent sur les continents africains. Le Togo organise samedi les premières élections sénatoriales de son histoire, marquant l'avènement de la nouvelle constitution adoptée l'an dernier et toujours vivement critiquée par l'opposition. Samedi 15 février, les chefs d'État de l'Union africaine se réunissent à Addis Abeba pour élire le nouveau président de la Commission de l'Union africaine à l'issue du 38e sommet des dirigeants du continent africain. Trois candidats sont en lice. Il s'agit du Kenyan Raila Odinga, du Malgache Richard Randriamandato et du ministre djiboutien Mahmoud Ali. Au menu de cette rencontre, les nombreux dossiers de crise et conflits dans l'est de la RDC agressés par les M23 avec l'appui du Rwanda. Des nombreux défis à relever, comme nous l'explique Seydik Abba, chercheur associé au groupe de recherche interdisciplinaire de l'histoire de l'Afrique à l'Université du Québec à Montréal au Canada.
Le 38e sommet de l'Union africaine est un sommet d'une particularité importante parce que depuis 8 ans, on n'a pas procédé à l'élection d'un président de la commission. Le Tchadien Moussa Faki Mahamat a été élu en janvier 2017 à Addis Abeba et ce sommet va être l'occasion donc de lui trouver un successeur et de pourvoir aux différents postes de la commission. J'imagine aussi que les questions internationales vont être abordées. Comment l'Afrique se positionne-t-elle aujourd'hui dans les différentes crises ou dans les différents enjeux internationaux? Toutes ces questions vont être discutées pendant les 2 jours que le sommet durera à Addis Abeba.
L'Union africaine est héritière de l'OUA plus de 20 ans après sa création. Aujourd'hui, quel bilan pour cette organisation de l'UA?
Dans la prise en charge, par exemple, des questions essentielles du continent comme les crises, il est important de voir qu'on a créé un commissaire à la paix et à la sécurité et on a créé un conseil de paix et de sécurité qui n'existait pas dans l'OUA. Dans cette Union africaine, on a fait des avancées sur le plan de la réforme, mais le chemin est encore long pour arriver aux objectifs que s'étaient fixés les promoteurs de l'Union africaine, parce que si vous regardez dans l'agenda initial de l'Union africaine, il était prévu une banque centrale africaine, un FMI africain, une armée même africaine, tout ça n'a pas pu se mettre en place. Pour être très concret, quand vous prenez la crise au Soudan, l'Union africaine n'est pas l'acteur principal de la recherche d'une solution à la crise. On voit dans la crise en Libye, par exemple, il y a même des puissances non africaines qui sont dans la gestion de ces crises-là. Et ça, c'est une de nos principales faiblesses. Et je crois que si on ne reprend pas entre nos mains les solutions à la crise africaine, on ne s'en sortira pas.
Ces dernières années, on a vu une institution de l'Union africaine appliquer des sanctions contre les pays ayant fait des coups d'État. Mais face au conflit en République démocratique du Congo, elle semble impuissante. Est-ce que les intérêts externes paralysent un peu sa médiation ou son implication dans ce conflit à l'est de la République démocratique du Congo?
L'Union africaine a voulu ménager les belligérants et ça, c'est une faiblesse. Les Nations unies ont produit un rapport mettant en cause le soutien du Rwanda au M23. L'Union africaine n'a pas fait la même chose. Elle n'a même pas endossé les rapports des Nations unies. Le fait qu'un autre pays africain soit agressé par un autre pays africain, l'Union africaine doit être capable de situer les responsabilités, de procéder à une enquête et au besoin de sanctionner le pays agresseur.
Le 15 février prochain, les 55 chefs d'État de l'Union africaine vont élire le nouveau président de la commission de l'UA pour un mandat de 4 ans. Quelles devraient être les priorités du nouveau président de cette commission?
Je pense que la question de la résolution de toutes les crises, que ce soit le Soudan, l'Est de la RDC, le Sahel, la Somalie, toutes ces crises-là doivent être au sommet de l'agenda du nouveau président. Ensuite, il lui faudra aussi prendre en charge tout ce qui est question d'intégration économique. Il faut aussi que l'agenda du renforcement de la démocratie et le retour même à la démocratie soit envisagé.
Seydik Abba, chercheur associé au groupe de recherche interdisciplinaire de l'histoire de l'Afrique à l'Université du Québec à Montréal, au Canada. Des propos recueillis par Myriam Sanduno. Concluons cette édition en faisant un tour de l'actualité internationale de la semaine. Parole à Françoise Niamia.
Commençons cette synthèse de l'actualité internationale par la conférence de Munich. L'administration américaine ne tient pas compte des règles établies et l'Europe doit pouvoir y faire face, a affirmé vendredi le président allemand Frank-Walter Steinmeier, selon qui l'absence de règles ne doit pas devenir le mode d'une nouvelle organisation du monde. La nouvelle administration américaine a une vision du monde qui ne tient pas compte des règles établies, des partenariats et de la confiance mutuelle développée. Cela, nous ne pouvons pas le changer, nous devons l'accepter et nous pouvons y faire face, a déclaré le président allemand en ouvrant la conférence de Munich sur la sécurité. Pour le chef de l'État allemand, il n'est pas dans l'intérêt de la communauté internationale que cette vision du monde devienne le paradigme dominant. Nouveau coup de pression sur le front des droits de douane. Donald Trump souhaite de la réciprocité dans tous les échanges commerciaux des États-Unis, allant jusqu'à remettre en cause la politique fiscale des autres pays sur leur propre marché intérieur. Des nouvelles taxes qui pourraient entrer en vigueur d'ici début avril. Les droits de douane, il en a été question lors de la rencontre jeudi à la Maison-Blanche entre le président américain et le premier ministre indien Narendra Modi. La guerre commerciale a dominé les échanges. Voilà des années que Donald Trump critique les tarifs douaniers qui gênent l'accès au marché indien aux entreprises américaines. L'Iran a accusé vendredi Israël d'avoir perturbé les vols Téhéran-Beyrouth après l'interdiction faite jeudi à deux avions iraniens d'atterrir sur l'aéroport de la capitale libanaise. Et le Liban, qui a commémoré vendredi l'assassinat il y a 20 ans de l'ancien premier ministre Rafik Hariri dans une nouvelle configuration interne et régionale qui ouvre la voie à un probable retour de son fils en politique. Premier ministre à deux reprises entre 1992 et 2004, Rafik Hariri avait été tué à Beyrouth le 14 février 2005 du temps de la domination syrienne sur le Liban dans un attentat suicide à la camionnette piégée qui avait fait 21 autres morts. Les 32 ministres de la Défense de l'OTAN se sont réunis jeudi sous le choc de l'offensive diplomatique lancée par Donald Trump en direction de Kiev et Moscou. Ils estiment pour leur part que rien de ce qui concerne l'Europe ou l'Ukraine ne peut être décidé sans les Européens ou les Ukrainiens. Mais le ministre de la Défense américaine ne leur a pas laissé aucune marge de manœuvre. Les États-Unis ne veulent pas envoyer de troupes en Ukraine pour y garantir la paix, mais ils ont surtout amorcé ce qui ressemble fortement à une prise en main de l'Alliance Atlantique. À Bruxelles, Pierre Benazet.
Les ministres de la Défense de l'OTAN ont été rejoints ce jeudi après-midi par la chef de la diplomatie européenne, Kaya Kallas, très critique des concessions que Donald Trump semble s'apprêter à accorder à la Russie sur le dos de l'Ukraine, une préoccupation partagée par les alliés européens, en particulier l'Allemagne. Mais selon le nouveau ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, les Européens doivent plutôt investir dans leurs armées s'ils veulent avoir leur mot à dire.
Les dirigeants de nos alliés européens doivent assumer la responsabilité première de la défense du continent, ce qui signifie que tous les alliés doivent s'approprier la sécurité. Et cela commence par une augmentation des dépenses de défense. Rien ne remplacera le pouvoir dur. Il devrait être évident que l'augmentation des dépenses de défense des alliés européens est essentielle. Mais pour assurer l'avenir, nos partenaires doivent faire beaucoup plus pour la défense de l'Europe. Nous devons redonner sa grandeur à l'OTAN.
Et le ministre américain de la Défense ne veut laisser aucune illusion aux Européens. Selon lui, c'est Donald Trump qui mène les négociations avec Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. C'est lui qui a les cartes en main et qui décidera des concessions que chacun devra faire. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du service Français-Afrique des Radios Vatican, Stanislas Kambashi, qui vous l'a présenté, vous dit merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos programmes.